Voilà, donc on arrive à presque la seconde partie de cette séance. Donc je voudrais juste, reprenant ma proposition la lutte du dandy et la lutte de l'artiste moderne, bon, ceci dit, dans les termes où Foucault pose les choses, hein, tels qu'on a pu les départager, hein, tels que j'ai essayé de les départager. Voilà, j'aurais aimé donc poser une question à Gabriel. Rappelez-moi votre nom précisément, j'ai peur de l'écorcher. Voilà, Cavello. Concernant justement, comment vous réagissez à cette proposition de dissocier ces deux figures, non seulement parce que évidemment le dandy apparaît dans le texte de Baudelaire comme une représentation de Constantin Guy, mais également parce qu'au fond on aurait chez Baudelaire une double politique artistique dont le dandy d'un côté et l'artiste moderne de l'autre seraient au fond les noms antagonistes. Voilà.
Et bon, et comme d'habitude, je dois. Oui, c'est une petite réponse. Oui, comme d'habitude, je dois m'excuser pour mon français, mais bon, j'ai essayé de répondre. Et bon, c'est vraiment une bonne question chez Baudelaire, cette question. Et, parce que c'est vrai que la figure de dandy, le dandy, Constantin Guy est en même temps un dandy et en même temps c'est un dessinateur de dandys. Ça veut dire que le dandy est un des sujets aussi de Constantin Guy. Il y a vraiment une différence entre les Constantin Guy, les peintres de la vie moderne, et les dandys, la première, c'est simplement, si on sait que c'est un des sujets qu'il dessine, c'est clair, c'est ces pratiques de la mémoire que tu avais décrit, à partir de ces transferts et des dessins comme Baudelaire les décrit, du point de vue corporel et technique. Mais aussi du point de vue lié à cette distinction que tu as mis, et aussi du point de vue des figures avec lesquelles Baudelaire représente l'artiste de la vie moderne, ou les peintres de la vie moderne. Et une de ces figures est le dandy, comme tu avais dit, représente surtout ces luttes d'émancipation contre certains positivismes égalitaires de la bourgeoisie, voilà. Et c'est une prise de distance, non? Et finalement, son opposé, sa contre-figure, pouvait être quelque chose comme les bourgeois normalisés. Je ne sais pas si on peut dire ça en français, et comme ça. Il y a une autre figure parallèle, c'est la figure de Flanner. De Flanner, c'est aussi quelqu'un qui s'approche de la multitude, mais aussi prend de la distance. Et il y a aussi une figure opposée, c'est la figure du Badaud. C'est quelqu'un qui facilement, tout de suite, devient engagé à l'intérieur de la multitude et ne prend pas cette distance. Mais quand Baudelaire parle de Guise, il dit que Guise est un dandy, Guise est un flâneur, mais plus que ça, Guise est un homme du monde, il dit. Guise est plutôt un homme du monde. Et un homme du monde veut dire quelque chose un peu plus complexe qu'un dandy ou qu'un flâneur qui prend de la distance. Un homme du monde a peut-être un double sens, non? Et la première fois, c'est le sens du cosmopolitisme, du voyageur. Constantin Guise a été, en plus, le premier journaliste qui a couvert une guerre, la guerre des Crimées avec ses dessins, et Baudelaire c'est ça, c'est un vrai cosmopolite. De l'autre côté, monde est aussi lié à certaines formes de sociabilité qui vient d'avant, qui vient peut-être du salon. Et ça c'est une chose très importante parce que Baudelaire insiste sur ça beaucoup de fois. Et la contre-figure de l'homme du monde, de l'artiste comme homme du monde, c'est l'enfant gâté, c'est l'artiste comme enfant gâté, qui reçoit beaucoup de prix, beaucoup de soutien des institutions, tout ça, mais dans lequel on ne peut jamais trouver quelque chose comme une parole énergétique. ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est une chose, il dit, qu'on peut trouver, par exemple, dans un voyageur, dans un vrai homme du monde. Et qu'il disait aussi qu'on peut trouver dans Delacroix. Dans Delacroix. Peut-être relié à cette autre forme de sociabilité qui vient d'avant. Je pense que ça, c'est important parce que si on introduit ce terme, c'est peut-être un troisième terme historique, comme vous pourrez dire, et Jameson, il y a une différence un peu subtile. Parce que Baudelaire décrit l'artiste comme enfant gâté, comme un technicien aussi. Mais il y a une différence. Et c'est que pour Baudelaire, l'art a toujours été un médium de la mémoire. Je pense que Hiddleston explique ça très bien, de l'individualisme bien entendu, comme il dit. Mais la mémoire qui intéresse à Baudelaire est la mémoire liée à l'homme du monde. Ça veut dire que, pour finalement essayer de réduire, ça veut dire que les dandys ou les flâneurs, je pense que sont des figures qui peuvent représenter Guise, mais Guise est plutôt, je pense qu'il le dit, comme distance, comme prise de distance. Mais finalement, ce que Guise est plutôt, est un homme du monde. Un homme du monde est quelqu'un qui a des vraies liaisons avec l'histoire, on peut le dire comme ça, avec la parole aussi, il insiste, et qui peut faire de là pas ce que l'enfant a fait, mais un vrai médium de la mémoire. C'est ça qui, je pense, que peut-être aussi intéressant pour le bout du séminaire. Et en plus, à l'intérieur au milieu de deux époques complètement différentes, non, de la sociabilité du romantisme en avant, et d'une chose complètement différente, comme un monde où la photographie a déjà apparu, est déjà populaire, et Guy est le premier, on peut le dire comme ça, non, reporter graphique de guerre, non, ou quelque chose comme ça. Non, donc c'est quelque chose vraiment.
Mais là, quand tu dis finalement, bien sûr c'est un dandy, bien sûr c'est un flâneur, bien sûr c'est un technicien, mais surtout
c'est un homme du monde. Pourquoi tu dis mais surtout pour, est-ce que c'est l'intérêt justement de cette idée de médium, hein, médium de la mémoire, c'est pas justement qu'il est tout ça, que c'est une sédimentation de fonctions dont les unes nous renvoient finalement au passé et les autres nous renvoient, j'allais dire, à ce que nous on lirait plutôt comme typiquement moderne, hein. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est l'interpénétration dans cette même figure de ces fonctions qui dessine une espèce de constellation qui n'a pas de consistance historique.
C'est exactement ça. Il manque une consistance historique que Baudelaire essaie de chercher. Peut-être c'est ça. Si je me rappelle bien, malheureusement je n'ai pas le texte avec moi aujourd'hui, mais si je me rappelle bien, il dit littéralement ça, que plus qu'un dandy, c'est plutôt un homme du monde. Parce qu'il dit littéralement, ça veut dire il y a quelque chose comme une hiérarchie finalement, non? Il y a quelque chose comme une hiérarchie.
Oui, non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Je pense effectivement qu'aux yeux de Baudelaire, la catégorie homme du monde, pour définir l'artiste, est beaucoup plus. Et va plus loin que la catégorie dandy. Oui, ça, je le pense. Et je pense que la catégorie dandy, elle viendrait presque, j'allais dire, en dernière position, et que, par exemple, l'idée de l'artiste technicien est beaucoup plus importante que le dandy, hein, chez Constantin Guy. Non, mais merci, Gabriel. Je pense qu'on reviendra sur la figure de Baudelaire, parce que moi, je pense qu'elle nous intéresse beaucoup, précisément à cause de cette inconsistance. Hein, c'est-à-dire qu'on a là une figure, hein, parce qu'il ne s'agit peut-être pas de Baudelaire, il ne s'agit pas de produire une énième interprétation de Baudelaire, mais il s'agit surtout de dessiner une figure qui, ne rentre pas dans les catégories, hein, de l'histoire de la littérature, l'histoire des idées, l'histoire culturelle, l'histoire de l'art, tel qu'on a l'habitude de les penser. On a vraiment là une espèce de moment de détricotage de nos catégories historiques, et ça s'appelle, ce point de détricotage, ça s'appelle Baudelaire. Et je crois que c'est un très bon objet, effectivement, à cause de cela. Donc, merci beaucoup. Alors, on va maintenant passer à, du jugement à la pratique, si je puis dire, hein, puisque la question du séminaire, c'est de savoir si la pratique peut-elle être une instance de jugement, et
Et dans pratique, j'entendais évidemment, pas évidemment, mais j'entendais pratique artistique, étant donné que moi, la pratique artistique, j'essaie de la penser précisément à partir du point de vue où je néglige ou j'ignore la question de l'autonomie de l'art. Hein, donc la pratique artistique entend qu'elle fait partie d'un certain nombre de pratiques qui ne sont pas pensées comme artistiques, mais qui pourraient d'ailleurs, pourquoi pas, l'être. Hein, voilà. Donc j'essaie de sortir cette question de la pratique artistique du concept de l'autonomie de l'art. Et donc la question, c'était de se demander effectivement quel était le, au fond, dans la pratique artistique, ce rapport à l'objet, aux matériaux mémoriels, tel qu'il nous est livré aujourd'hui par les technologies d'information et communication, dans lesquelles mémorisation et production sont intimement confondues. Hein, c'est-à-dire la production est devenue mémorisation hein, aujourd'hui. Et voilà, donc c'était ça, c'est vraiment la question que maintenant j'ai envie que nous nous adressions à nous-mêmes et que nous adressions aux artistes qu'on a invités. Et donc la séance du 27 avril, on a invité Pierre Huyghe, mais Pierre Huyghe m'a dit « Je ne veux surtout pas faire une causerie, je ne veux surtout pas faire une conférence, je ne veux surtout pas avoir à présenter mon œuvre. » Bon, ceci étant, il faut quand même évidemment être à même de faire une conversation avec Pierre Huyghe sur la base de son œuvre. Et c'est pourquoi j'ai invité Marie Muratiol vraiment tardivement, parce qu'en fait je conçois ce séminaire en fait au fur et à mesure. Et donc Marie a eu vraiment la gentillesse d'accepter, alors que je sais qu'elle a mille et une choses à faire en plus. Et donc on s'est dit avec Marie qu'on allait faire ça comme une conversation, un dialogue. Et alors, moi je vous ai demandé excusez-moi, j'ai décidément un problème aujourd'hui. Je vous avais demandé à tous d'aller voir la pièce de Pierre Huyghe qui est actuellement exposée à Beaubourg, hein, qui s'appelle It's Not a Time for Dreaming, hein, donc c'est pas le moment de rêver. Et je me disais, on pourrait peut-être repartir de cette pièce. Alors, qui ne l'a pas vue ?
On l'a vue à moitié.
D'accord. Et vous l'avez vu ? Et vous ? Bon, hein, comme par hasard, c'est les étudiants de Nanterre, je ne parle pas des doctorants, mais je parle des autres, qui ne l'ont pas vu. Je ne commente pas. Bah oui, 2 sur 8, hein, donc c'est pas bon. Marie, est-ce que tu pourrais moi, cette pièce, elle m'a intéressée et pas intéressée, je vais être honnête, hein. Je veux dire du point de vue de notre séminaire. C'est-à-dire qu'elle m'a intéressée parce qu'il me semblait qu'une certaine façon, elle tapait exactement au centre de notre point de départ. Et je vais dire à Marie un peu comment je l'ai vue, cette pièce. Hein. Et ensuite, tu vas me dire si tu es d'accord ou pas. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est pour vraiment lancer un espèce de gros pavé dans la mare. Hein. Et puis, ensuite, tu vas réagir à ça. Donc, je me suis dit, au fond, on a affaire à un conte pour enfants. En ce sens, si on le prend comme ça, on a affaire à une espèce de petit spectacle, j'allais dire, assez facile à déchiffrer dans un premier temps et très difficile dans un second temps. Alors moi, je me suis contentée du très facile et puis tu vas nous introduire au très difficile et je vais te poser des questions. Ce qui évidemment a fait sens pour moi par rapport à notre séminaire, c'était évidemment la mise en relation de Gaspard David Friedrich et de Le Corbusier. Hein, c'est-à-dire qu'on voit bien comment le personnage de Le Corbusier, hein, pour ceux qui ont vu la vidéo, je ne la raconte pas pour ceux qui ne l'ont pas vu, tant pis pour eux. Ce personnage de Le Corbusier, il arrive au début de la vidéo, sur le fond d'une réminiscence d'un tableau de Friedrich, dont malheureusement je n'ai pas par cœur le titre, qui est ce fameux portail hein, dans la neige, hein, voilà, hein, qui est très précisément repris dans l'image. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois que Pierre Huyghe fait référence à Friedrich. Donc tout ça est parfaitement logique. Et on pourrait dire que cette fable, c'est une fable qui parle du modernisme et qui parle du au fond, ce qui est une espèce d'adieu au modernisme. C'est une manière, au fond, de dire Le Corbusier est une figure du modernisme. Le modernisme est lui-même une sorte d'ultime ressuscité du romantisme, incarné par Friedrich.
Et ce qu'on s'aperçoit lorsqu'on considère ces architectures modernes, par exemple celle de Le Corbusier, c'est la manière dont ultimement, ce sont des incarnations merveilleuses de dix natures, c'est-à-dire que quand on les regarde, ce qu'on voit, c'est la nature qui pousse au travers, c'est les ronciers, et les ronciers avec les murs, évidemment, c'est typiquement une citation de Friedrich, puisque les tableaux de Friedrich sont bourrés de ronciers. Donc, finalement, il n'y a pas de différence d'un certain point de vue, que je vais ensuite préciser ce point de vue, entre les architectures modernistes de Le Corbusier et les architectures gothiques citées par Friedrich. À la fin de cette espèce de mise en scène figurative, on a une petite fable, une petite morale. C'est le monsieur qui arrive, alors qui parle justement, c'est jamais que tu nous dis ça, et qui donc nous lit un petit texte qui est le texte du narrateur. Donc Pierre Huyg, cette fois-ci, qui est sorti de son statut de marionnette et qui est devenu une espèce de commentateur de lui-même, de glossateur, et qui nous dit, au fond, c'est à la condition de sortir d'un certain modèle de la conscience de soi, c'est-à-dire d'un certain type de projection de potentialité dans le passé et de possibilité dans le futur, que on peut commencer à faire quelque chose aujourd'hui, à savoir, et je retraduis ça dans les termes du séminaire, c'est à la condition de sortir d'un certain modèle de la réflexion, puisque la conscience de soi, c'est la réflexion, modèle de la réflexion qui évidemment est le modèle romantique par excellence de la réflexion dans laquelle réflexion et jugement sont co-substantiels, donc une certaine immédiateté de la réflexion, que d'une certaine façon on peut faire de l'art aujourd'hui. Donc on pourrait dire c'est une espèce de révocation non seulement du modernisme revu et relu comme une espèce de remake du romantisme du 19e siècle, et au fond ce que nous dit Huyg, c'est de nous dire au fond qu'est-ce qu'on peut faire comme type de représentation sur la base de cette tradition, qui est à la fois la tradition moderne, mais en fait c'est la tradition romantique de dix natures, on ne peut jamais faire que du spectacle de marionnettes. Donc au fond, c'est une espèce de pièce dont le dispositif matériel est en fait la clé. C'est-à-dire que la représentation ne sera jamais que du spectacle de marionnettes. Spectacle lui-même, alors il y a évidemment le doyen des doyens, c'est un personnage intéressant, qui est une espèce de figure du dieu lamnicien, qui manipule toutes les marionnettes elles-mêmes, etc. C'est la conséquence d'une certaine philosophie, j'allais dire, de l'histoire, mais surtout d'une certaine philosophie du sujet, et on retrouve là la question de la réflexion et du jugement au cœur du problème. Et alors, ce qui est très intéressant, évidemment, par rapport au contenu de la fable, c'est le dispositif de construction du récit, qui, lui, est un démenti au contenu de la fable, puisque la c'est en boucle, certes, mais qu'il faut le voir deux fois pour le voir une fois, c'est-à-dire que le récit qui arrive, en fait, je veux dire, le commentaire du spectacle qui arrive à la fin, suppose qu'en fait, on revoit la fable, et qui veut dire qu'au fond, on a une structure qui est le contraire d'une structure téléologique, c'est-à-dire qu'une structure téléologique, c'est une structure linéaire, c'est-à-dire ça joue une fois pour toutes, finalement, et le récit s'auto-déchiffre au fur et à mesure, tandis que là, non, là, il faut recommencer à voir la chose pour qu'effectivement ça prenne sens. Donc on est dans une autre structure du temps que la structure téléologique qui est la structure même de la fable. Donc c'est le premier problème que je me suis posé. Bon, ensuite il y en a beaucoup de problèmes que je me suis posé. Je me suis posé le problème de savoir, alors on va peut-être commencer par là, puisque c'est le titre de ton interview, qui parle, et peut-être pas, sous une forme extrêmement simple, à la fin, qui parle finalement, concrètement, qui est ce monsieur qui apparaît ?
C'est drôle parce que dans la première question que tu poses, oui, tu prêtes des intentions extrêmement déclaratives, alors, je vais pas parler à la place de Pierre, mais tu prêtes à l'œuvre, au film, La portée d'un vrai discours construit, adressé au public et qui aurait une volonté déclarative seule, avec des précisions qui sont peut-être justes, mais qui sont en fait. C'est-à-dire, je n'ai jamais entendu Pierre parler de Friedrich précisément.
Ah bah oui, voilà. Oui, non, mais bien sûr. C'est-à-dire que quand il dit qu'il n'y a pas de problème culturel, hein, par exemple, il y a un déni formidable. Il dit à la fin, dans le petit texte, le monsieur dit qu'il n'y a aucun intérêt culturel dans cette affaire. Alors que c'est strict. Enfin, pour moi, c'est une lecture. D'ailleurs, on le voit en lecteur, avec, au milieu de ses caisses avec tous les bouquins, etc. Puis après, les feuilles volent et elles deviennent des feuilles d'arbres. Bon, mm-hmm. C'est sympa, je veux dire, c'est bien dans le récit de la fable. Mais, objectivement, pour moi, il n'y a qu'un intérêt culturel. Voilà. C'est-à-dire, l'intérêt de part en part de cette pièce est culturel. Alors, bon, évidemment, c'est complètement polémique et provoquant, c'est pour que tu nous dises autre chose.
Bon, moi, je vais parler simplement de la manière dont c'est constitué. Mmh. L'épilogue comme prologue dont tu parles. Mmh. Donc, vous avez compris qu'il y a un film et qu'il y a un livret, qui s'appelle d'ailleurs un libretto, exactement comme un livret d'opéra, et qui est, je crois, si j'ai bien vu, à disposition à l'entrée de la salle, qu'on peut lire et qui accompagne le film. Le film étant lui-même un élément d'une exposition. Et le film à présent existe sans la première exposition, mais reconfigure un temps d'exposition et en effet, comme tout film d'ailleurs, à chaque fois qu'on le revoit, la lecture qu'on en fait est renouvelée. Particulièrement parce qu'il y a cet épilogue comme prologue dont Pierre Huyghe n'est pas l'auteur, qui est écrit par Liam Gillick.
D'accord.
Donc là aussi, je crois que l'un des termes posés par le narrateur à la fin, donc c'est un narrateur, c'est qu'il s'agit d'une communication par procuration. Et je ne pense pas, même si Pierre Huyghe, à chaque, dans beaucoup des œuvres, des films, des expositions, des processus qu'il met en place, va s'impliquer et va rendre compte d'une manière relativement documentaire, entre guillemets, de situations vécues par lui. Ça n'est pas quelqu'un qui fait œuvre de discours et ça n'est pas quelqu'un qui fait œuvre d'autobiographie non plus et c'est pas du tout à prendre au premier degré. Alors dans ce que tu dis, il n'y a pas que du premier degré.
Mais il n'y a pas du premier
degré.
Mais je voulais simplement essayer de réinterpréter ça à partir de nos affaires pour essayer de voir en quoi ça pouvait éventuellement les nourrir ou pas.
Alors je ne sais pas si je pourrais faire des liens très directs entre les questions dont on a parlé ici et la pièce.
D'accord.
Et je crois qu'il faut peut-être pas chercher à chercher à illustrer les choses, mais peut-être à créer quelques passages et à la question qui parle. Justement, c'est une question à laquelle on ne répond pas avec « This is a time for dreaming ».« This is a time for dreaming », c'est une parole issue d'une des personnes... Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le film, la scène se passe à Harvard, dans les circonstances d'une commande faite à donc un jeune artiste français... de proposer un projet pour le Walker Center qui était construit initialement par le Corbusier, qui je crois est un lieu réservé aux artistes ou en tout cas aux arts plastiques à l'intérieur d'Harvard et qui émane de deux jeunes curateurs. Et ce projet, à l'intérieur de l'institution d'Harvard, va ouvrir à des discussions et des débats et des conflits. Et l'artiste, donc Pierre Huyghe en l'occurrence, arrive là-dedans et il est témoin de ces conflits. Il en est à la fois aussi... il est pris là-dedans et son travail, sa commande est prise là-dedans. Et il se demande, au fond, quelle position il doit... il cherche une position par rapport à ça. Et il va réaliser un projet. Mais pour parler de ce projet, il aurait fallu qu'il puisse éventuellement participer au débat. Il est exclu des débats par une personnalité quelconque de Harvard qui dit que on ne va pas inviter l'artiste parce que ce n'est pas... This is not a time for dreaming. C'est pas le moment de rêver. Et donc l'artiste est automatiquement associé à l'idée d'un rêve, mais au sens le plus élémentaire du terme. Hein, c'est-à-dire... l'artiste est exclu du réel. Or, il se trouve quand même que le travail de Pierre Huyghe est de d'inscrire des actes dans le réel, que ce soit des films, des moments, des situations, etc. Donc, ça n'est pas une réponse directe, mais c'est la position prise par le film, c'est de partir d'une, au fond de quelque chose qui s'oppose à ce qu'il veut faire, et de le de détourner, de reprendre cette phrase, cet élément, d'en faire un élément de narration. Et à aucun moment, il y a évidemment l'artiste apparaît sous forme de marionnette, ce qui est la première fois, je crois, dans son travail, ou une des premières fois qu'il apparaît directement. La marionnette était elle-même dans l'exposition de l'Arc, si vous l'avez vu, donc il y a peut-être un peu plus d'incarnation que d'habitude. Mais le film ne se déroule pas à la première personne. C'est une fiction, et ça se montre comme une fiction. C'est du cinéma, hein, ce sont des associations. Donc toi, tu les lis, ces associations, mais on peut les relire, et les, à chaque fois qu'on regarde le film, elles peuvent à chaque fois être décalées et prendre une connotation différente. Enfin, elles sont pas fixées. Hein. Il ne s'agit pas d'un discours, même s'il y a un dispositif, même s'il y a des éléments qu'on peut reconnaître, qu'on peut identifier par rapport à une situation donnée.
Oui, parce qu'il insiste beaucoup en disant dans le petit épilogue, alors tu me diras que c'est un texte de Liam Gillick, il dit beaucoup « ça n'est pas une situation contingente ». Donc dire « ça n'est pas une situation contingente », c'est dire « c'est une situation nécessaire ». Donc quelle est la nécessité alors de cette situation ?
Parce qu'il a effectivement répondu à une commande. Je crois que c'est la situation spécifique à laquelle un artiste... C'est un dispositif de réel pour un artiste. C'est le fait qu'on lui demande quelque chose, alors que lui-même va... au moment où il produit son travail, un artiste, il va... se faire lui-même commande. Donc c'est une situation contradictoire. Moi, je le verrais comme ça, mais il faudrait poser la question à...
Oui, parce qu'en même temps, précisément, contingent, c'est bien le réel. Littéralement, le contingent, c'est le réel. Donc quand on dit que c'est pas contingent, ça veut dire que c'est nécessaire et qu'il y a une nécessité logique. Tu vois. Et donc on se dit, mais alors, quelle est la nécessité logique de cette construction, tu vois, objectivement, hein. Moi, par ailleurs, le terme contingent est hyper, philosophiquement, enfin, toi, théoriquement, on ne peut pas voir le terme contingent comme un terme hasardeux, puisque c'est vraiment un terme hegelien, enfin, très typiquement. Tu vois, c'est pour ça que ça fait quand même encore appel de romantisme, hein, ce terme de contingent.
Alors, ça, il faudrait en fait interviewer même Liam Gillick là-dessus, alors, parce que je pense qu'il a une autre position encore.
Bien sûr, alors pourquoi Liam Gillick ? Est-ce que tu sais ça ?
Non. Ça, ils ont travaillé beaucoup ensemble.
Ah oui, je pense
que je pense qu'ils ont des préoccupations communes, mais je pense qu'il y a une distinction à faire entre la position de Gillick et celle de Wieck par rapport au film. Donc, c'est plutôt dans l'idée de la collaboration qu'il a avec laquelle, qui est un des procédés qu'il a employé assez souvent, ou du dialogue ou de la conversation. Il faut voir la collaboration avec Gillick là-dessus. Mais j'ai pas de réponse absolue à te donner. Au fond, d'ailleurs, dans toutes les propositions que tu as fait au départ, je n'ai pas de réponse absolue à te donner. Je ne sais pas si l'artiste aurait une réponse absolue à te donner, et je ne sais pas si on peut être dans une interprétation aussi stricte. Pièce.
Moi, je t'ai dit, je lance un pavé. C'est-à-dire, je sais bien que c'est pas ça par définition. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on a des tas d'appels de sens qui quand même convergent vers un type d'effet d'interprétation, alors qui ensuite sont effectivement démentis par plusieurs choses, par le fait qu'effectivement on est au-dessus d'un abîme, c'est-à-dire qu'on n'est quand même pas dans une salle de cinéma. On est sur un plateau, et ce plateau est construit, tu as vu ça, comme une espèce de falaise en réalité. Donc c'est pas tout à fait la structure de la salle de cinéma. Alors, effectivement, à un certain moment, on se voit soi-même en ombre devant un écran. À un autre moment, on voit le bâtiment de Le Corbusier au fond duquel il y aurait une salle de cinéma. Ça, c'est tout à fait juste, hein, le modernisme cinéma. Et puis à un troisième moment, on voit cette scène sur laquelle se déroule le spectacle, et cette scène est vraiment comme un apic, hein, je pense que vous avez tous vu ça, enfin les gens qui ont vu la vidéo, comme un apic qui donne sur rien. Hein, donc je veux dire par là qu'il y a plein de... Il y a plein, disons, de manière sous-jacente, il y a plein de d'appels à une décontextualisation du contexte créé par la scène elle-même. Hein.
On est dans une salle de projection en train de regarder un film et pas une vidéo. Ça, je pense que c'est, il y a une différence. Oui. Et dans le film, il est question d'une salle de spectacle où est donné un spectacle de marionnettes. Donc, et cette salle de spectacle est très particulière, donc c'est une excroissance d'un bâtiment existant. Je pense qu'effectivement, Pierre Huyghe n'est pas un moderniste, mais la présence de Le Corbusier dans l'histoire, elle vient de la commande. Hein. C'est pas lui qui a choisi de s'adresser à Le Corbusier. C'est pas le sujet de son travail. Hein. C'est contingent, tout à fait. Et donc, on regarde un spectacle en train de se faire et il s'agit de la question de l'exposition. Je fais une association très, très libre et en revenant à quelque chose dont on a parlé au départ. Il y a une œuvre de Jeff Hall qui s'appelle Buzz Day Party, où on voit une ventriloque avec une poupée, je ne sais pas si vous la connaissez, vous pourrez trouver facilement des reproductions de cette pièce-là. Alors, je ne pourrais pas me souvenir intégralement du titre, mais il est important, c'est Buzz Day Party. C'est en 1947. C'est 47, hein, c'est ça. Et la date est importante puisque 47 est un peu, enfin, c'est le moment où la télévision s'est généralisée dans les foyers américains. Donc, on voit un anniversaire pour enfants. Évidemment, comme d'habitude, à une grandeur quasiment échelle 1-1 pour le spectateur qui est dans la salle. Et le cercle des enfants qui observent le spectacle est à peu près ouvert à la place du spectateur pour qu'on puisse s'intégrer au rang des spectateurs et assister à ce spectacle de ventriloquie. Alors, nous, spectateurs de la pièce de Jeff Hall, évidemment, on n'entend absolument rien, ça c'est certain. Et on voit des enfants totalement fascinés par un dispositif très grossier puisque la femme qui a sur ses genoux cette marionnette, et là aussi c'est ça qui m'y fait penser, a derrière elle une valise ouverte qui est la valise de la marionnette. Donc on voit bien qu'il s'agit d'une poupée qui a été sortie d'une boîte et qui va y retourner. On sait que tous les enfants qui participent au spectacle savent qu'il s'agit d'un artifice et qu'à aucun moment ils ne peuvent croire que la poupée va parler directement. Donc tout ça est un jeu avec des règles qui sont données. Et pourtant, ils sont absolument fascinés parce qu'ils savent que ce qui va être produit par la poupée, dit par la femme, mais qu'elle va faire passer par la poupée, par procuration, elle va dire des choses qui ne seront pas du même ordre que ce qu'elle leur dirait elle-même en tant que personne dans la vie. Donc ils sont à l'intérieur de la scène, d'une scène de théâtre extrêmement immatérielle, puisqu'ils sont dans la même pièce, il n'y a pas de... Et ils ont parfaitement intégré, comme nous tous, ce que c'est que les conditions d'une fiction, d'une narration qui passe par un objet et qui se donne pour fiction, mais par laquelle vont transiter des significations extrêmement importantes et peut-être des significations qu'on ne leur livre pas directement dans l'existence. Donc ils ont cette écoute particulière. Voilà. Et je pense que je ne veux pas mettre à égalité du tout les deux pièces, mais l'idée du spectacle de marionnettes, elle est là et elle est peut-être une référence à une forme d'archaïsme de la narration par rapport à l'extrême sophistication du film. Parce qu'il faut dire quand même que le film est un objet hyper technique et dont le montage, dont la composition est sophistiquée. Cette histoire de prologue qui vient à la fin ajoute à ça.
Non, mais pour reprendre un peu ce que je te disais, moi je t'ai dit, je commence par le plus idiot, c'est-à-dire le contenu, ça a l'air d'être une fable. Et puis ensuite, le dispositif est un démenti total du contenu. Hein, et donc moi, je t'interrogeais sur le dispositif. Donc si j'entends ce que tu me dis, ou ce que tu nous dis, c'est au fond, ce qu'il faut regarder, c'est l'ensemble des médiations qui constituent le dispositif, à savoir le musée, l'écran au fond du musée, la salle de cinéma... Le théâtre de marionnettes, hein, toutes ces médiations qui sont à chaque fois des techniques différentes et leur montage, d'une certaine façon, la vidéo que nous voyons, évidemment, donc tout ça est une espèce de construction extrêmement extrêmement précise de médiation et qui sont toutes des médiations d'exposition et qui font de l'exposition une opération qui n'est pas une opération continue, mais qui est une opération, j'allais dire, de montage, qui passe par le montage de médiums différents les uns avec les autres. Et c'est sur, j'allais dire, c'est à travers cette espèce de boule à facettes, on va dire, de ce dispositif diffracté d'exposition, qu'il faut lire, ou plutôt il faut laisser se déconstruire cette fable, cette fable apparemment simple, effectivement romantico-moderniste, avec ce personnage de l'artiste manipulé par le grand Manitou, et lui-même grand Manitou manipulant des petits Manitou, etc. Et que tout ça, au fond, c'est une façon de dire, au fond, le dispositif d'exposition, cette espèce d'hypermédiation, d'hypermédiatisation de l'exposition à travers ces différents médiums d'exposition, est simplement une manière, on va dire, de dégrener, enfin, je veux dire, de dissocier, pour reprendre le terme de Bernard de tout à l'heure, cette espèce de fable, on va dire, que j'ai racontée, qui est vraiment la fable historiciste, la fable interprétative, la fable comme possibilité d'interprétation.
Je crois que la fable, alors peut-être que je me trompe, là aussi, elle se produit tout simplement à cause du principe de la procuration. Et que c'est ça qui intéresse beaucoup Huyg dans ses dispositifs, et qui il a pour l'exposition à la Tate, il avait ajouté à l'exposition donc qui était une transposition de celle de Paris, des auteurs de la Standing Comedy. Ça, il en parle beaucoup et ça l'intéresse. Ce sont des improvisateurs. Il n'y a pas de mots équivalents ici. C'est pas des chansonniers. C'est des gens qui dans des salles de spectacle viennent raconter des histoires dans lesquels ils mettent des informations de l'actualité en jeu, je crois. C'est pas, et la notion d'information, elle est importante aussi dans l'idée du documentaire et de l'opposition documentaire-fiction qu'il essaye de résoudre, là. Et donc, il y avait ce spectacle et ce commentaire qui s'ajoutaient. Et au fond, c'est pas du tout l'idée, pour reprendre l'idée de départ, du discours tenu qui intéresse l'artiste. C'est au contraire l'idée de peut-être de propager un récit et d'observer la propagation de ce récit dans le réel. Et ça revient à certaines autres pièces qu'il a produites, comme la célébration. Il a inventé une célébration dans une ville nouvelle aux États-Unis en espérant qu'elle allait se reproduire tous les ans. Ça, c'est évidemment une opération qu'il ne contrôle absolument pas. Il met en place un dispositif, il espère que ce dispositif va se reproduire, et ce qui l'intéresse, c'est la transformation de ce dispositif. C'est pas du tout, comme ça a pu être interprété parfois, une opération de contrôle sur la vie des gens ou de légifération sur leur existence. C'est, au fond, fabriquer des éléments, des germes, qui vont se propager dans le réel et qui vont le déplacer. Et la fiction est là pour ça.
Oui, alors justement, on arrive à la phrase sur laquelle je voulais qu'on parle, en fait, te faire parler. C'est la phrase de l'entretien que tu as eu avec lui, dans laquelle il te répond « Le réalisme est un programme culturel. Comme je l'ai dit, je travaille à reprogrammer des situations existantes ou à en produire. Je ne tiens pas de discours, etc. »
Oui,
une forte assurance ce que tu dis. Mais alors, parce que moi, l'expression reprogrammer des situations existantes, alors par contre, elle nous ramène absolument au centre de ce que j'avais essayé d'exposer la dernière fois sur la question de la programmation, comment transformer les modes de programmation qui sont des modes de pouvoir en nouveaux modes d'information et de visibilité et donc en nouvelles techniques de lecture. Comment est-ce que tu entends chez Huyg? Est-ce que tu pourrais maintenant nous donner des exemples de pièces ou des exemples, préciser cette notion de reprogrammer des situations existantes ou à en produire ou à produire?
Mais là aussi, je pourrais pas parler à sa place, mais m'évoque tout à fait, c'est la question de la situation de conflit ou de la situation extrêmement chargée d'affect, d'un récit, d'une situation qui est arrivée réellement, et comme dans A Certain Memory aussi, où il reprend, en fait, en reprenant le film de Sidney Pollack, qui reprend quand même, lui, il va retourner à la situation initiale qui est une sorte de tragédie. Alors vous vous souvenez de Sun Memory, c'est une pièce de Pierre Huyg qu'il a faite à partir d'un fait divers qui avait donné lieu à un film de Sidney Pollack, qui en français le titre est Une journée de chien, avec Al Pacino. Donc le film est relativement célèbre, vous pouvez le voir facilement. Et c'est l'histoire d'un hold-up de banque, enfin d'une banque aux États-Unis qui tourne mal, pour aller très vite. Et Pierre Huyghe est allé chercher l'acteur principal de ce fait divers, enfin, celui que Sidney Pollack a mis en scène comme le personnage principal de son film, et lui a demandé de commenter, de retrouver l'ordre réel des choses. Donc, je ne me souviens plus de son nom, donc c'est dommage parce que ce serait important. Cette personne va corriger le film de Sidney Pollack et reprendre au fond sa propre histoire à partir. Et c'est là qu'on s'aperçoit, c'est The Silent Memory, c'est un peu ça, c'est que au fond ses propres souvenirs ont été bien sûr déformés par le film. Le mythe qui a été produit à partir de son histoire réelle, c'est introduit dans sa mémoire et a modifié sa mémoire. C'est tout à fait intéressant par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure.
Voilà, par rapport à l'anamnèse et l'hypomnèse.
Voilà, simplement dans The Swan Memory, le dispositif est très très lisible. La règle du jeu est assez facile à décrire, c'est ce que je viens de faire rapidement. Je pense que dans This is not a time for dreaming, la reprise d'un conflit réel, quelque chose que l'artiste a eu à subir à un moment donné et qu'il va réinvestir, donc en le dégageant d'un certain nombre d'affects, d'angoisses, etc., qui peuvent être celles des différents protagonistes sur le moment, pour essayer justement d'en savoir un peu plus et de voir un peu mieux de quoi il s'agit, de sortir un peu de ces luttes de pouvoir. La règle du jeu est plus floue et il y a plus de risques pris d'ailleurs. Donc effectivement, il y a plus d'interprétations possibles, certainement.
Absolument.
Je pense que ça, c'est l'évolution du travail sur la durée, entre les deux. Enfin, c'est deux éléments de son travail, mais ça me semble assez frappant. Oui, on en a parlé dans l'entretien.
Oui, tout à fait. Enfin, effectivement, moi, cette interprétation, je l'ai eue, disons, en regardant la pièce. Tu vois, c'est-à-dire, je l'ai notée en même temps que je regardais la pièce dans le noir, je notais l'interprétation. Pour te dire à quel point pour moi c'est pas une interprétation, c'est-à-dire c'était entièrement
dicté.
Oui, c'était pour moi un déchiffrement, comme si j'avais transcrit. Tu
l'as vu combien de fois ?
J'ai vu trois fois. Et pour moi c'était ce qui veut dire que c'est d'une certaine façon complètement. Oui, c'est pour ça que c'est une fausse interprétation, toi, puisque l'interprétation, ça consisterait plutôt à travailler sur le rapport entre la fable et les dispositifs, évidemment. Mais la fable, et c'était un peu ça, ce qui rendait la pièce, intéressante, par rapport à l'idée de ce dont on se souvient. Parce qu'au fond, il y a effectivement la construction du dispositif, qui est un dispositif d'exposition et de mémoire. Et puis, tu as au fond ce dont elle te fait souvenir, qui est une espèce de récit philosophique, j'allais dire, tellement évident. Il surgit tout seul comme les fleurs poussent, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, c'est une espèce de... Bon, je suppose que je ne suis pas la seule à avoir vu ça. En tout cas, maintenant, j'aimerais bien que d'autres personnes qui ont vu la pièce prennent la parole, peut-être pour qu'on aille un petit peu plus loin.
Moi, ce que je peux dire, c'est que le plus intéressant de cette controverse est la controverse elle-même.
Et le fait. Il n'y a pas de controverse, hein.
Non, mais le fait qu'il y ait des postures divergentes sur le statut de l'interprétation d'une œuvre. C'est-à-dire comment on peut vraiment avoir la sensation de lire et comment l'œuvre elle-même, elle est totalement détachée de cette lecture. Et comment, pour le cas concret de la pièce de Pierre Huyghe, en fait, d'après ce que Marie dit, les éléments ne sont pas là, mais on les voit. Donc, moi, ça m'intéresse en termes plutôt formels, comme précisément un effet peut-être voulu de cet enchaînement de déplacements que Pierre Huyghe a cherché à créer comme une source paradoxale de signifier, en quelque sorte. Et qui, je pense, qui est son jeu, en quelque sorte. Il cherche toujours à lire le signifier à rebours et montrer que voilà, une espèce une espèce d'événement esthétique qui ressort d'un accident, quelque chose comme ça. Moi, je pense à la pièce qui n'est pas une pièce, qui est plutôt... Bon, moi, je pense que c'est plutôt une pièce documentaire, cet entretien avec la personne qui faisait le doublage de Blanche-Neige. Et donc, et voilà, a créé cet effet qui est présent dans la photographie de Wall, cet effet de paradoxe, de voir le dispositif et de voir les effets en même temps, et de soi-même subir les effets, parce qu'on est tous très sensibles à ce genre de voix que l'on a entendu dans notre enfance. Donc, je ne sais pas, j'ai plutôt la sensation de voir l'œuvre évoluer à travers la controverse elle-même sur des possibilités de lecture. Donc je ne sais pas dans quelle mesure Pierre Huyghe est conscient de ce genre de prolongement de son travail. Je pense qu'il est pleinement.
Je pense que oui, il en a déjà entendu parler, mais je pense que c'est pas quelque chose qui lui poserait. Enfin, je pense que ça l'intéresse. Quand je disais que ça, c'était effectivement sur le principe de la propagation, alors là c'est au travers du regard qu'on a dessus, et puis Catherine a cherché à être. À jeter un pavé dans la mare, donc à essayer justement de pointer la question. Oui, voilà.
Ah, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, effectivement, dans une production comme ça, j'allais dire, il y a des éléments de congruence qui sont un peu lâchés dans la nature, si je puis dire, et qu'il suffit que mon œil se pose dessus pour qu'il fasse un objet. Ouais, il fasse une sorte de mythe, on peut dire, c'est un espèce de mythe occidental. Hein, pour toi, c'est comme Blanche-Neige, en fait. Hein, pour moi, c'est une espèce de mythe moderniste, mais alors vraiment à gros traits, tu vois, c'est une espèce de cliché. Et on a l'impression qu'il y a cet effet de mémoriser, effectivement, de travail sur la mémoire. C'est-à-dire, effectivement, c'est-à-dire que je pense que si je l'ai fait, 1000 personnes ou 10 000 personnes ou 100 000 personnes auraient pu faire. Hein, c'est-à-dire, c'est une manière que ce matériau-là a de prendre s'il passe dans une certaine lessiveuse mémorielle. Voilà. Et que ça fait partie de l'œuvre de Huyghe, de fabriquer ce type d'effet. C'est ce type de narration. D'ailleurs, il insiste sur la narration en disant « Je suis un French auteur et donc je fabrique des narrations. Si j'appartiens à une certaine tradition, je suis un auteur français, ce qui veut dire je ne suis pas un auteur américain, donc j'appartiens à une certaine tradition herméneutique. Je spécule sur le fait qu'il y a des fables, des fables culturelles qu'on se raconte entre soi et qui fondent la communication dans nos sociétés. » Et effectivement, je veux dire, effectivement, ça marche comme ça. C'est-à-dire que moi, je vois ça, et c'est pas moi, hein, je veux dire, je pense que là, c'était un effet de... C'est pour ça que j'ai dit que j'ai transcrit ça hein, en sténo, hein, dans mon carnet en même temps, tellement c'était, subconscient. Voilà, et donc je pense qu'il joue avec ces effets d'anamnèse qui n'ont rien à voir dans le public, qui n'ont rien à voir avec sa propre anamnèse à lui, qui est le règlement du conflit, la commande, etc.
Oui, puis lui ne cherche pas le règlement du conflit.
Oui, enfin,
ça m'intéresse plus du tout.
Non, mais je veux dire, la manière dont le conflit fait une histoire, enfin, donc qui est une manière de résolution par déplacement, on va dire.
En tout cas, la manière dont une situation peut déjà contenir des récits ou des fictions, et pas une seule, qui vont se régénérer au gré des situations successives qu'elles vont habiter. Parce que le film, donc la projection du film, c'est bien d'ailleurs comme mot, une projection de film, c'est à chaque fois une reprojection, une relecture, une reconfiguration. Ce serait peut-être ça.
Mais justement, en fait, de ce point de vue, je me demande si on ne pourrait pas considérer cette pièce de Huyghe comme de l'anti-Jeff Wall, finalement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est comme si... l'expérience qu'était ce film, c'était la dissociation entre nos outils d'interprétation, nos outils herméneutiques et, on va dire, les processus de composition, de fabrication de la pièce. C'est-à-dire que c'est comme si, habituellement, au fond, quand on écrit, on a les mêmes catégories que quand on lit, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'association, c'est-à-dire qu'on a des mêmes cadres de compréhension, quoi.
On n'en sait rien, non, je crois.
Non, c'est pas...
J'ai des doutes là-dessus, mais...
ce que je veux dire, c'est que toutes les œuvres qu'on peut voir ne mettent pas en crise nos processus de compréhension. C'est-à-dire que quand on voit un téléfilm, c'est pas comme quand on voit un film de Lynch. On voit bien que Lynch opère ça, en fait, une dissociation, qu'on expérimente ça, en fait.
Sauf que là, justement, c'est du cinéma qui est projeté dans le musée. Ça ne contredit pas ce que tu dis. Mais quand tu parles de catégories aussi strictes que téléfilm et film de Lynch, là tu parles de, alors là, d'une notion, enfin d'une dimension très industrielle de oui. la production de fiction. Et il se trouve que dans le musée, si je ne me trompe pas, on ne peut pas les faire marcher exactement de la même manière, typiquement. Je pense que c'est pas un hasard, parce que je pense que Wig ne fait pas du cinéma avec les moyens du cinéma. Et ça, c'est une question. Est-ce qu'il pourrait en faire ou pas? Il y a des artistes qui l'ont fait récemment. Par exemple, il y a eu la tentative de Parrenon et Gordon. Bon, j'ai pas vu le film. Je peux pas juger, dire quoi que ce soit dessus. Mais ça, il l'a pas fait. Donc, le film est vu à l'intérieur du musée.
Oui, oui, oui. Mais alors, restons dans le musée. Moi, c'est parce que Catherine, vous parliez de mythes. Moi, j'ai l'impression que ça s'appliquerait bien à Jeff Wall, mais moins à Pierre Wig. Parce que chez Jeff Wall, il y a, même si au fond la signification ou l'interprétation est un processus à relancer ou quelque chose qu'on recommence, etc., il y a une espèce de volonté signifiante quoi, chez Jeff Wall, qui me paraît vachement plus compliqué ou beaucoup plus ambigu chez Pierre Wig.
Je suis d'accord avec vous en ce sens que je pense que chez Jeff Wall, il y a un grand sérieux. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui devient, ce qui est fable chez Wig et mythe, c'est Jeff Wall. C'est-à-dire que Jeff Wall est sérieux, tandis que chez Wig, il y a une grande désinvolture, enfin, il y a une désinvolture qui signifie tout simplement que. Enfin, il n'y a aucune espèce de consistance du mythe, quoi. Hein, je crois.
Oui.
Enfin, oui, non, mais je suis d'accord avec vous.
Je ne sais pas si c'est le mot désinvolture que j'emploierais. Et je...
Non, mais désinvolture.
Mais non, c'est mais c'est peut-être plus une façon peut-être encore plus hybride que Wall d'aller recourir à des domaines, des régimes, des matériaux, des processus de travail. Tout simplement, c'est pas la même génération. Et bon, puis ce rôle, il faudrait revenir là-dessus en détail parce qu'au fond, je ne sais pas s'il a toujours cette position-là en plus.
Ah oui, non, ça c'est autre chose.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore.
Bon, il y aurait. Enfin, non.
Je sais pas si.
Non.
Dans les, simplement, je voudrais livrer 2-3 points. Oui. On pourra peut-être revenir une autre fois là-dessus ou avec Pierre.
Dans 15 jours, oui.
Ce qui était intéressant, c'était l'histoire des théâtres de mémoire. Oui. Je pense que ça, c'est une piste qu'il faut peut-être reprendre.
Oui.
L'exposition comme théâtre de mémoire contemporain, puisque c'est la question de l'exposition qui l'intéresse. Évidemment, la question de la mémoire et de la lecture est très importante. Et la question, ça c'est ce dont on vient de parler, de cette non-intériorité, ou en tout cas de ce désintérêt de la question de l'intériorité, qui me paraît assez évident chez lui, mais pas forcément de manière théorique, là aussi. Bon, après, j'ai essayé de faire des passages avec ce qu'on a dit sur Baudelaire et sur ce peintre de la vie moderne, mais on est quand même assez loin. Et je pense que même l'électricité générée par le dessin chez Constantin Guy, c'est qu'on est quand même dans une vision très machinique et très, très différente. Je parlais de Warhol la dernière fois et de l'artiste comme plaque sensible. Mais chez Constantin Guy, il n'est pas plaque sensible. Il est plutôt, c'est une plaque, c'est une imprimerie quasiment. Hein, c'est une machine à imprimer. Ce qui est pas du tout la même. Et là, on est même plus dans la plaque sensible, enfin du côté de la plaque sensible, c'est encore autre chose. C'est comme une espèce de surface de passage des expériences et de ricochet presque. Je ne sais pas si l'image lui conviendrait. Donc c'est peut-être une question qu'on peut lui poser. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres.
Oui. Moi, par exemple, est-ce qu'on pourrait dire à propos du détournement qui était quand même un thème important et du détournement des programmations industrielles de la mémoire dans les pratiques artistiques. Est-ce qu'on peut pas dire précisément que son désir, l'idée de programmer des situations, c'est de programmer du réel à partir de médiations mémorielles, hein. C'est-à-dire, il prend un dispositif de mémoire, par exemple l'exposition, le musée,
Il prend un dispositif d'exposition et puis très complexe, hein, il en montre effectivement toute la complexité, la manière dont le musée en fait se renvoie au cinéma, le musée, le théâtre de marionnettes, le cinéma, hein, tout ça finalement est une espèce de différents dispositifs mémoriels qui en fait s'engrènent, on pourrait dire.
En tout cas, qui ne se suppriment pas les uns les autres.
Voilà. Se sédimentent, on va dire, qui se sédimentent pour faire des machines de mémoire, des machines de programmation de la mémoire, et que l'enjeu de tout ça, finalement, c'est de programmer une situation réelle, tu vois, c'est-à-dire de sortir de cet engrenage mémoriel pour déclencher du réel. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que c'est un mode de détournement du point de vue de Huyghe?
Je pense que c'est un processus de c'est une démarche. Je sais pas. Mmh. C'est une pratique. Mmh. Ça me semble pas être. C'est pas moi qui peux répondre à cette question, mais je pense pas qu'il s'agisse véritablement d'un détournement. Mmh. Je pense que c'est ce qui l'intéresse.
D'accord. Donc l'idée, c'est pas par exemple de faire passer le spectateur au récepteur, j'allais dire d'un rapport à l'art structuré par un certain nombre de dispositifs de mémoire à tout d'un coup un événement dont il a à faire l'expérience à main nue, je vais dire, sans toutes ses prothèses mémorielles.
Si, parce qu'il l'autonomise absolument pas l'expérience artistique, ça c'est clair.
Mmh. Oui, parce que c'est ça en fait, c'est un peu ça la question.
Je pense.
Alors qu'est-ce que tu nous conseilles de travailler comme pièce dans la perspective du séminaire de Pierre Huyghe?
Je pense que dans la mesure où ce sont quand même des installations, enfin, c'est pas des installations, je pense qu'il n'aimerait pas ce terme, mais le film est projeté dans des conditions qui sont ces conditions et que ça a de l'importance et qu'il ne veut pas qu'on les projette n'importe comment, ce serait bien de partir de ce qu'on peut voir en ce moment.
Oui.
C'est-à-dire d'aller retourner voir cette pièce, d'aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas vue, de lire le libretto. Il y a un texte alors que je vais laisser à Catherine, mais je pense qu'elle nous en reparlera, de Dorothea von Antelman dans le catalogue de L'Arc. Mmh. Sur le concept de célébration qu'elle rattache justement à l'histoire de la critique chez Kant, et je pense que là tu as du grain à moudre, et où elle développe le concept de célébration pour sortir de la question d'une critique au fond, comme une sorte de justement de participation au réel. Il ne s'agit pas d'un assentiment. La notion de célébration n'est pas un assentiment ou simplement une sorte d'applaudissement à quelque chose. On n'est pas du tout dans la monumentalisation ni rien de tout cela. Mais elle rattache ça. C'est Dorothea von Antelman, et c'est pas, une fois de plus, c'est pas Pierre Huyghe qui parle, mais elle rattache ça aux théories de Austin sur le performatif, dont on entend tellement parler en ce moment, donc c'est pas inintéressant de regarder ça aussi. C'est-à-dire de tout ce qui a une valeur d'acte, du seul fait, par exemple, d'être dit. Hein. Vous savez qu'une parole performative, c'est « je juge que » dans le cadre d'un tribunal, voilà. Et le jugement étant prononcé, il existe. Et c'est une notion qui permet de déhiérarchiser la matérialité des actes, des actes par rapport à la matérialité de ce qu'ils produisent. Voilà. Et je pense que c'est un texte que vous pouvez essayer que vous pouvez trouver facilement, ou vous pouvez trouver en bibliothèque ou lire.
Ça s'appelle Célébrer un déplacement de la critique. Et donc c'est publié dans le catalogue de L'Arc. Que vous trouvez à la bibliothèque Kandinsky, certainement.
Oui.
Voilà. Donc ce serait bien que, disons, tout le monde ait lu ce texte, dont je repartirai probablement, en fait. Sinon, je pense que quand même la pièce Third Memory qui est importante.
Oui.
Pour notre propos. Et il y a la pièce qui s'appelle Ellipse aussi.
Qui est la pièce où il reprend l'ami américain.
Voilà.
De Wenders, et il reconstitue. Il y a énormément d'œuvres de Pierre. Et je parlais l'autre jour avec quelqu'un qui s'appelle Olivier Bardin de la télévision qu'il avait faite. Enfin, il avait fait une chaîne de télévision qui a duré, c'est 3 semaines ou 3 mois à Dijon, avec les moyens du bord, et où il a demandé à des artistes de participer en produisant directement, en direct, quelque chose. Je ne sais pas si toi tu avais fait quelque chose, ou en envoyant un film. Donc, il y a aussi quand même, c'est quelqu'un qui va chercher des formes assez éloignées de ce qu'on pourrait circonscrire comme un champ artistique traditionnel, ou en tout cas institutionnalisé, et qui a pas du tout peur d'aller du côté du monde du divertissement. Et avec ce projet assez ancien de parc d'attractions aussi, qui est intéressant, sur lequel il a...
Tout à fait.
Il me semble qu'il en a un peu parlé. Bon, y a une multitude de choses. Il faut aller regarder ses catalogues. Il faut regarder les textes qui y figurent et les quelques entretiens qu'il y a. Certains étant en anglais, mais bon. Je pourrais peut-être transmettre à Florent 2-3 références.
Ce serait bien.
Pardon. Ou à Catherine.
À moi alors.
Oui.
Enfin bon, à moi. Pourquoi à moi finalement voilà, mais enfin bon, j'ai l'impression qu'en tout cas, on va être amené à travailler quand même sur cette notion de programmation du réel à travers des dispositifs de mémoire. À mon avis, c'est un peu là-dessus que j'ai envie de reprendre la question avec Pierre Huyghe, c'est-à-dire au fond que c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur tous les modes d'enregistrement et avec des pièces en général qui supposent une maîtrise technologique extrêmement grande.
Qui ne l'intéresse pas en elle-même.
Non, d'ailleurs je crois qu'il fait toujours appel à d'autres gens, hein, donc c'est pas lui qui contrôle tout ça en fait. Il travaille comme un cinéaste, hein, avec des plateaux de tournage et puis des gens, des ingénieurs, des techniciens qui font tout ce travail. Mais que le but, c'est de produire du réel. C'est-à-dire qu'au fond, l'enjeu de la pièce, il est hors de la pièce, hein, véritablement. Hein. Et donc, au fond, c'est ça qui est assez curieux. Mais en même temps, pour qu'il se passe quelque chose à l'extérieur de la pièce, il faut qu'il se passe des choses à l'intérieur. Et voilà, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des effets de, un peu comme des espèces de bombes amorcées à l'intérieur de la pièce, de différentes natures, à différents niveaux, qui doivent exploser ensuite dans le réel de la réception. Et c'est un peu ça au fond. Alors ensuite il y a la question de savoir effectivement le réel qui est un peu, par exemple cette commande avec cette histoire dont on ne sait rien, parce que finalement cette pièce, tu nous dis qu'il y a cette commande, etc.
Tout ce que je sais, c'est que moi, je n'ai pas vu le théâtre, donc on voit apparaître dans le film, qui est une sorte d'excroissance très, très végétale. Je sais qu'il a été détruit très peu de temps après l'unique représentation qui a eu lieu et qui a donné lieu au film, à l'enregistrement. Donc le conflit est allé assez loin en réalité, mais peu importe, c'est pas le problème. C'est certainement pas le problème.
Ça a été détruit.
Ouais. La pièce n'existe plus. C'est un exemple, disons, d'incompatibilité entre l'institution et la production d'un artiste. Mais je pense, enfin, on en avait parlé avec Pierre, il ne me semble pas du tout que pour lui ce soit quelque chose sur lequel il ait envie de revenir. L'événement s'est produit.
Non, mais d'un point de vue foucaldien, c'est quand même hyper intéressant, puisqu'on a vraiment une question d'une machine de pouvoir qui est l'institution. Commanditaire, hein, qui est une institution, donc en ce sens-là, c'est vraiment bien, hein, une mécanique de subjectivation au sens d'assujettissement et dont la commande finalement aboutit à une production qui est une réponse qui elle-même aboutit à la destruction de la réponse elle-même. Donc c'est intéressant puisqu'on est vraiment l'articulation de pratiques d'assujettissement, pratiques de liberté.
Hein. Oui, mais à partir du moment où le film existe, ça c'est moi qui dis ça, la pièce n'est pas détruite.
Enfin, non.
Mais effectivement, l'institution est folle dans l'histoire.
Enfin, elle est folle, oui. Enfin, en tout cas, on voit bien comment il y a un enjeu quand même d'émancipation. En tout cas, dans la réponse que fait Huyghe, hein, et dans l'existence même du film... Hein, on a une réinterprétation effectivement d'une situation, hein, et d'un conflit ouvert, non soluble, hein, dans le compromis, qui effectivement, on peut dire, c'est vraiment ce qu'on appelle un détournement chez Foucault. C'est très typiquement ça. C'est-à-dire que dans cette pièce, on a très typiquement une situation de détournement.
Oui, mais il se trouve que j'en ai parlé, donc j'en suis tout à fait responsable, mais on est en train de prendre la pièce par un tout petit aspect.
qui oui, est. Oui, mais forcément. Ouais. Non, mais je veux dire, bien sûr. Oui. Non, mais on n'a pas. On a, bien sûr, non, mais.
C'est pas un règlement de compte du tout, voilà. Ça que je
ah non,
dire.
Non, non, mais j'entends bien, j'entends bien. C'est, moi, au fond, mon souci, c'est moins, en l'occurrence, étant donné notre ignorance plus ou moins grande les uns et les autres, faisant venir Pierre Huyghe, ce qui m'intéresse plutôt, c'est pas évidemment maintenant tout de suite de faire comme si on avait un point de vue exhaustif sur une œuvre que moi, personnellement, je n'ai pas suffisamment travaillé, donc je connais pas mal de pièces, mais que j'ai pas travaillé particulièrement. Donc, pas mal de gens ici, on commence juste par rapport auxquels ils ont simplement une initiation. La question, c'est plutôt d'arriver à fabriquer justement une situation de conversation, voilà, où on puisse échanger des choses sur la base d'une ignorance commune des uns et des autres. Voilà. Donc, moi, j'essaie de. Non, mais c'est ça la vie, hein. Donc, moi, j'essaie de voir le tout petit angle, effectivement, forcément assez inadéquat, mais par lequel, quand même, on va pouvoir faire un événement de parole qui durera évidemment les 3 heures que ça durera, puis qui éventuellement après aura d'autres conséquences. Mm-hmm. Moi, c'est mon but, puisque malheureusement on fait ce qu'on peut, quoi. C'est pas grand chose.
Juste pour terminer, je reviendrai sur le titre, puisque c'est la question que tu m'as posée tout à l'heure, sur qui parle.
Qui parle, oui, qui parle.
Donc, en fait, quand tu poses la question et que tu attends qu'on puisse répondre.
Oui, oui.
Il s'agit justement de l'impossible. Enfin, c'est très difficile de savoir qui parle et de dire je. C'est la question posée par Brotas. Et à vrai dire, il n'y a qu'en passant le relais de la parole qu'on peut arriver à peu près à adresser quelque chose aux autres. Je crois que c'est ça.
Le je est une question, quoi. Je est un point d'interrogation.
Oui.
Non, mais très bien. Non, mais ça nous remet en plein encante, effectivement. Hein, voilà. Hein, on avait parlé du vertige pour commencer et du déséquilibre. Et j'aurais dû parler du manieur de gravité du champ pour introduire le sujet critique kantien. Je ne l'ai pas fait pour ne pas vous affoler tout de suite, mais bon. On pourra revenir là-dessus. Donc, je vous propose qu'on suspende. Vraiment, Marie, merci. C'était très formidable de t'écouter parce que ça nous a permis déjà un premier aspect très concret, une première approche. Donc, on te remercie aussi à la perspective de venir parce que tu vas venir dans 3 semaines. Donc, c'est vraiment très bien. Et puis vraiment, là, cette fois-ci, je vous demande de fourbir un peu les
d'aller voir le film.
Les mémoires, et pas les armes, mais les mémoires, pour être capable de dialoguer avec Pierre Huyghe, puisqu'il m'a dit et redit qu'il ne ferait pas de conférence, et je le comprends parfaitement. Hein, donc, ne comptez pas non plus sur moi pour faire une conférence.
Moi, j'ai une toute petite question, c'est que je me souviens avoir vu la pièce dont vous avez parlé sur le film de Sidney Pollack. Et je me souviens plus très bien comment c'était. Et il y avait un mélange d'images d'archives, des actualités de l'époque, de films et d'interviews du protagoniste.
Une première pièce documentaire avec les journaux de l'époque, etc.
Et effectivement, les archives.
Non.
Non, sur le fait divers lui-même. Mmh. Ensuite, on rentrait dans une seconde pièce.
Il y avait l'affiche du film de Sidney Pollack.
Qui faisait partie des documents. Et dans une seconde pièce, on avait donc la projection qui est un double écran, hein, puisqu'on allait. Oui. Enfin, en tout cas, il y a plusieurs. Moi, j'ai le souvenir d'un double écran. Voilà. Avec le film d'un côté et le déroulement de l'action revisité par le protagoniste du fait divers.
À qui il était arrivé quand même un centre d'aventure assez exceptionnel. Hein, puisqu'il avait changé de sexe, si je me souviens bien, non ?
Non, c'est pas lui. C'est
non,
c'est
son fiancé. Voilà. Son fiancé, voilà.
C'est-à-dire
pour ça qu'il avait fait le.
Il braquait une banque pour payer l'opération de son ou sa bien-aimée. Voilà. Donc il y a toute cette. Oui, c'est une vraie histoire. Enfin, c'est une incroyable histoire.
Il y a deux écrans, et sur les deux, il y a 3 mémoires, celle de l'information. Type journal du 20h de l'époque, celle de la fiction avec Al Pacino qui joue le rôle du braqueur, et puis la troisième mémoire qui est filmée par Pierre Huyghe, qui a également fait le montage et l'articulation des deux précédentes et du film. Et de la troisième mémoire qu'il produit lui, avec le braqueur qu'il est allé retrouver et qu'il a demandé de rejouer la scène du braquage.
On joue tout.
Donc, les trois mémoires. Et ensuite, il y a un jeu avec 2 écrans où il met toujours en parallèle 2 mémoires, la troisième et la deuxième, ou la deuxième et la première, ou la troisième et la première, avec un rythme défini par Pierre Huyghe pour ça, pour son, pour cette œuvre, pour cette installation vidéo.
Ouais. Et reconstitue les faits après 15 ans de prison, je pense.
Oui, 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 bien sûr. Bah, il reconstitue les faits il y a 5 ou 6 ans, oui, c'est-à-dire à la date de l'œuvre de Pierre Huyghe. Enfin, le malfaiteur, donc on ne se souvient pas du nom.
Il ne se souvient pas de tout, voilà. Et
ben oui,
pardon. Il peut rejouer avec des armes, il peut rejouer.
Mais d'une manière non naturaliste, ça c'est important aussi. Il y a un décor très très minimal, alors que le film de Pollack est extrêmement naturaliste, avec évidemment, vous imaginez, l'acteur vedette qui en fait. Et c'est assez important aussi de voir la différence entre le personnage physique d'Al Pacino et puis l'homme qui est sorti de prison, qui a vécu tout ça, et qui refait ses gestes. À son rythme du présent.
Oui, donc en fait, si on reprend nos termes, le film est dans le rôle de l'hypnose et la troisième mémoire, c'est l'anamnèse, quoi. Hein, donc on est vraiment exactement dans la question qu'on posait il y a une heure et demie. Hein, c'est ça qui est tout à fait remarquable. Bon, eh bien, écoutez, à bientôt.